Une semaine dans leur vie, reportage, portrait au long cours chaque semaine. Au long cours, c'est le cas de le dire, nous parlons du Vendée Globe dans ce numéro. L'une des courses à la voile les plus exigeantes et les plus folles, le Vendée Globe, c'est un tour du monde sans escale, en solitaire, sans assistance. Le départ est donné ce 8 novembre pour au moins 70 jours de course pour les plus rapides. Il y a 33 concurrents en lice et l'un des favoris s'appelle Charlie Dalin. Pourtant, ce sera son premier tour de la planète, première fois aussi longtemps seul sur un bateau, première fois dans les mers du Sud, première fois qu'il passera le mythique Cap Horn. Bonjour Jérôme Val.
Bonjour Bruno.
C'est vous qui avez rencontré Charlie Dalin, Jérôme.
Exactement, Charlie Dalin, on le présente rapidement,
oui.
Son CV, il a 36 ans, il est originaire du Havre, pas du tout une famille de marins, il n'y a pas le père, le grand-père qui avait une carrière ou une envie folle de monter sur un bateau et de prendre le large, pas du tout. Mais Charlie Dalin, il a très vite regardé la mer, très vite regardé l'horizon. Pour lui, ça a commencé véritablement en 2009, il y a un peu plus de 10 ans. C'était une course sur un tout petit bateau de 6,50 m. Et puis, il y a eu une première victoire en course en 2012. C'était une transatlantique en double. Mmh. Et puis, il était donc au départ de ce Vendée Globe tout seul pour un énorme défi, le défi souvent d'une vie. Lui, il va le vivre à 36 ans maintenant pour ce premier tour du monde, ce qui sera pour lui évidemment l'aventure de ce début de carrière très prometteur.
Et il revient à votre micro sur ce parcours d'un marin déterminé.
Nous sommes à Concarneau, au bord de l'eau, Charlie Dalin. La mer, votre univers, votre passion. Est-ce que vous avez le souvenir, vous, de la première fois que vous avez vu la mer, que vous avez voulu y aller, que vous avez voulu rentrer dans la mer ou aller dessus sur un bateau?
C'est une petite particularité peut-être pour moi, c'est que je ne suis pas né dans une famille de voileux. Quoi. Je ne suis pas né dans une famille de navigateurs. Je suis vraiment d'une famille de terriens. Et par contre, je suis né, j'ai grandi au bord de la mer, au Havre. Et cette passion pour la mer, je pense qu'elle vient un peu de ma mère, justement, qui aime beaucoup ça. Donc moi, j'ai d'abord été attiré par la mer. Je passais beaucoup de temps à la plage ou en vacances à Crozon. Et ma mère m'a inscrit à un stage d'optimiste, justement. Et je devais avoir 6-8 ans. Voilà, je me rappelle comme si c'était hier, là, de ces premières navigations, là, d'aller avec la petite annexe du moniteur et rejoindre les bateaux, les petits optimistes en file indienne, là, mouillés dans la baie, et après, voilà, aller un peu dériver ou naviguer, je sais pas ce que j'arrivais à faire à l'époque, mais en tout cas, avancer un peu avec une voile et un gouvernail à la main, je crois que je m'étais même échoué un jour, d'ailleurs, sur la plage. C'était, en tout cas, ça m'a marqué et je me suis pas arrêté depuis.
Et aujourd'hui, on va franchir l'équateur, on change d'hémisphère. Ça va vite à réaliser, des crestes. Ah, tout va bien à bord. Et pendant ce temps-là, ça fonce. Allez, salut tout le monde.
C'est une chose d'avoir une passion, effectivement, la mer, la voile, naviguer. C'en est une autre de se dire un jour, je serai marin professionnel.
Il n'y avait pas de plan de carrière. Hein. C'était vraiment voilà, m'amuser sur un bateau. Voilà, forcément, j'avais des petites maquettes que je faisais naviguer sur les bassins du Havre aussi. Je pense que c'est vraiment au lycée, quand j'étais au lycée, que j'ai commencé à me dire que c'est là-dedans que j'avais envie de travailler. Quoi. Je me suis dit, ok, j'ai envie de faire ça, de naviguer, mais je savais pas par quel bout commencer. J'avais l'impression que ça pouvait être un métier un peu précaire, qu'il n'y avait pas vraiment de règles pour y arriver. Et voilà, comme je connaissais personne, j'y connaissais rien. Voilà, je me suis dit que peut-être qu'en faisant des études d'architecture navale, ça pourrait m'aider à comprendre comment on construit des bateaux, comment ils fonctionnent.
Du coup, vous êtes devenu architecte naval et marin. Vous avez accompli finalement les deux choses.
Ouais, exactement. Je suis sorti de l'université diplômé en juin 2006. J'ai commencé une petite période où j'alternais entre les projets d'architecture navale et le bateau. En fait, je finançais mes projets de bateau avec l'argent que je gagnais sur ces projets. Ça m'a amené à beaucoup voyager. J'ai pu acheter un mini 650 là, pour faire la mini Transat en septembre 2009.
Et presque un peu plus de 10 ans plus tard, vous êtes au départ du Vendée Globe. C'était déjà un rêve dans un coin de la tête à cette période-là?
La voile en solitaire, c'est quelque chose qui m'attire. Je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais être seul sur un bateau, c'est ce que je préfère et ce qui m'attire le plus en course au large.
Alors voilà pour le parcours de Charlie Dalin. Jérôme, il faut maintenant parler de son monocoque, en précisant qu'ils se ressemblent tous, hein, les navires des concurrents du Vendée Globe, d'une certaine manière.
Oui, ces embarcations ont toutes la même jauge, c'est-à-dire la même longueur, la même largeur. La longueur, ce sont des longueurs de 60 pieds, oui. 18 mètres 28 très exactement. Et ce bateau, celui de Charlie Dalin, très beau, hein, tout neuf, il a été mis à l'eau en août 2019. Ce bateau est l'un de ceux qui seront équipés de foils. Les foils, on va beaucoup en parler sur cette édition du Vendée Globe. Ce sont comme des ailes de carbone qui sortent de chaque côté de la coque.
Ça fait comme des petites moustaches.
Exactement, ça a la forme de moustache, alors plus ou moins prononcée, ouais. Plus ou moins courbée selon l'influence qu'on veut avoir sur le bateau, mais ça permet au bateau de se reposer sur ces foils et de se sustenter, comme on dit de manière un peu technique, c'est-à-dire tout simplement de sortir de l'eau et donc d'avoir moins de traînée dans l'eau et donc d'aller plus vite. Ce sont des bateaux beaucoup plus puissants qui ont eu un saut technologique très important. Et ce bateau, je le disais, relativement neuf, hein, un an à peine, et il repose sur les pontons de Concarneau dans le Finistère.
Et c'est là qu'on vous retrouve, Jérôme Val, avec Charlie Dalin.
Charlie Dalin, nous sommes dans les locaux qui hébergent habituellement votre bateau lorsqu'il est retiré de l'eau. Ce bateau, c'est un bateau neuf. Il est né quoi ? Il est né sur un bout de table comme ça ? C'est, voilà, vous avez dessiné un plan rapidement ?
Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Le projet Apivia, il a été signé en mars 2018. On s'en est suivi un an et demi de construction, puisqu'on a mis à l'eau le bateau au mois d'août 2019.
Vous avez une formation d'architecte naval. Vous avez voulu aussi le mettre à votre main, finalement, ce bateau ?
Déjà, c'est une chance énorme d'avoir un bateau construit pour soi, quelque part. Avoir un bateau construit selon mes idées, ma philosophie, c'était vraiment une aventure en soi qui était extraordinaire, quoi. J'ai passé toute cette phase avec un calepin à côté de mon lit, parce que j'y pensais vraiment jour et nuit, quoi. Donc, dès que je me réveillais la nuit, je pensais à des idées, des systèmes, je les griffonnais sur mon calepin pour être sûr de pas les oublier en m'endormant. Et après, j'en parlais en arrivant au chantier, à l'équipe. Et du coup, je suis heureux d'avoir plusieurs de mes idées qui sont arrivées sur le bateau.
Et parmi ces technologies embarquées sur le monocoque Apivia de Charlie Dalin, il y a les foils, ces grandes ailes qui dépassent de chaque côté de la coque. Ce sont ces foils qui permettent au bateau de voler au-dessus de l'eau.
Je me rappelle un jour, on s'est dit, bon, ok, donc on les regarde sur les écrans d'ordi en trois dimensions, on a toutes les caractéristiques. Et je dis, bon, les gars, on va peut-être quand même dessiner le foil par terre, quoi, pour voir ce que ça donne en vrai, quoi. Et on s'est rendu compte qu'on partait vraiment sur des foils très grands.
Je m'appelle Luc Talbourdet, je suis le président d'Avel Robotics.
C'est ici, dans ces locaux, qu'ont été conçus les foils du bateau de Charlie Dalin. Question toute bête, un foil, ça sert à quoi sur un bateau ?
Alors, un foil, c'est assez simple, c'est l'équivalent d'une aile d'avion pour un avion. C'est-à-dire que ça permet au bateau de se lever et diminuer la traînée. Et donc, du coup, il va plus vite, puisque plus de puissance égale plus de vitesse. Et puis, moins de traînée égale aussi plus de vitesse.
Des bateaux qui vont plus vite, mais aussi, et c'est le revers de la médaille, plus inconfortables. Les chocs sont plus violents, les vagues et l'eau de mer omniprésente. Charlie Dalin.
Je me suis dit, pour aller plus vite, plus longtemps, il faut que je sois, moi, protégé un maximum. Et voilà, d'où cette idée de protéger la zone de manœuvre, là, c'est ce cockpit, le plus possible, moi, pour être à la fois en sécurité et pouvoir être à l'abri du vent, à l'abri des embruns, à l'abri des paquets de mer aussi. C'est vraiment une réussite du bateau, parce que là, quand il y a pratiquement 50 km/h de vent et que le bateau est aussi à plus de 50 km/h, j'arrive à naviguer en t-shirt dans mon cockpit, quoi. Et ça, c'est vraiment pas donné à tout le monde.
Ce bateau au nez élancé et aux ailes de géant est un produit 100% français, conçu et fabriqué entre Le Havre et La Rochelle, en passant par la Bretagne. Un condensé qui fait de la France l'un des leaders mondiaux en matière de construction de bateaux de course.
C'est une bête de course. D'accord, Jérôme Valmy, il faut vivre dans le ventre de la bête et la vie à bord de ces monocoques n'est vraiment pas facile.
Très particulière, en effet. Il faut imaginer que l'on pénètre dans ces espaces par, alors j'allais dire une porte, mais non, c'est vraiment un trou de souris par lequel on se faufile pour éviter au maximum l'eau de mer de pénétrer dans cet espace. Donc pour aller dans le cockpit, il y a un tout petit espace. Le cockpit, c'est l'endroit où le marin manœuvre son bateau et c'est là où il y a la barre, il y a toutes les cordes, les boutes, comme on dit dans le milieu de la voile pour lever les voiles ou les baisser. Et puis il y a encore un petit trou de souris pour aller dans l'espace de vie, là où l'on dort, où l'on fait de la cuisine, enfin la cuisine c'est assez sommaire, là où on se lave si on peut, et là surtout où on établit la stratégie de course avec tous les appareils électroniques, la météo, etc. Donc c'est un endroit où il peut faire très chaud, il peut faire très froid, c'est un endroit pas très aéré, c'est un endroit où il y a beaucoup de bruit, très inconfortable, et pourtant les marins y vont. Nous, terriens, ça nous serait difficilement supportable, mais pour eux c'est évidemment le cocon dans lequel ils vont vivre durant ces au moins 2 mois de course.
Et c'est petit et c'est humide, visite guidée avec Charlie Dalin.
Nous allons monter sur le bateau de Charlie Dalin. Là, nous sommes à quai. Hop, petite ouverture. Bonjour Charlie Dalin.
Bonjour.
Merci de nous accueillir chez vous.
Bienvenue dans Apivia.
C'est petit, c'est combien de mètres carrés d'ailleurs?
Si on oublie la loi Carrez, l'espace de vie, il doit faire 2x3 à peu près.
6 mètres carrés.
Ouais. Juste à droite de l'entrée ou à tribord de l'entrée, on va dire, on a le cardance dans lequel je mets mon petit réchaud. Sur la gauche, là, j'ai mes bâches de matossage dans lesquelles je vais pouvoir mettre tout mon matériel. Il faut savoir que j'ai à peu près 150 kilos de nourriture. J'ai mes outils, du matériel de rechange aussi. Voilà, on n'est pas loin des 300 kilos de matériel qui est stocké en sac que je vais déplacer en permanence pour équilibrer le bateau, pour améliorer ses performances. C'est vrai que c'est un bateau de 18 mètres, on pourrait s'attendre à beaucoup d'espace de vie, mais on s'adapte autour de ça.
Alors il faut que vous ayez tout finalement à portée de main, le lit, la cuisine, la table à cartes, l'ordinateur.
Ouais, exactement. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de salle de bain, pas de douche, il n'y a pas de chauffage, il n'y a pas de frigo, de micro-ondes. La cuisine, c'est un petit réchaud de camping. Les toilettes, c'est un seau. La douche, ce sera des douches à l'eau de mer de temps en temps et un rinçage à l'eau que je fabrique à bord, de l'eau du dessalinisateur.
C'est de l'eau de mer, en fait, que vous filtrez, quoi. C'est ça, ça a bon goût, vraiment.
Quand on ne l'a pas utilisé depuis quelques temps, il faut pas boire les premiers centilitres parce que voilà, ça a un peu goût d'œuf pourri, on va dire. C'est vraiment pas très agréable. Après, elle a pas de goût, quoi. Elle a pas de goût, mais c'est sûr que, en fait, emporter pour 70 jours d'eau, ça ferait énormément de poids. Du coup, là, ça nous permet de partir plus léger. Aussi, j'ai beaucoup de plats lyophilisés, donc desquels on a retiré l'eau. Donc ça permet que la nourriture soit aussi un petit peu plus légère. Au final, je consomme très très peu d'eau par rapport à un terrien. Je vais produire peut-être entre 4 et 5 litres d'eau par jour, quoi. Donc c'est vraiment des très faibles quantités, même par rapport à une chasse d'eau à terre.
Là, nous sommes dans un endroit où il y a peu d'espace totalement plat. Charlie Dalin, vous faites dodo où? Vous dormez où?
Alors, je fais dodo sur un matelas qui est un petit peu englobant. Je pose mon matelas vraiment à même le fond de coque et je m'allonge dessus. Et aussi, ça me permet aussi de voir mon écran d'ordinateur de ma position allongée, donc de pouvoir toujours avoir un œil sur ma trajectoire, sur les conditions météo. C'est un gros défi sur ce Vendée Globe, le sommeil. Le sommeil, il n'y a pas de problème, j'en aurais. Le problème, c'est d'avoir un sommeil de qualité, un sommeil réparateur, quoi. Le fameux sommeil lent profond, qui est essentiel à la récupération. En fait, tout va dans le mauvais sens pour un sommeil de qualité, hein, sur un bateau de course comme celui-là. Le bruit, on dépasse les 90 décibels dans certaines conditions. Les chocs, forcément, les chocs à répétition, les températures extrêmes. Sur l'équateur, on s'approchera des 40 degrés, dans le sud, des zéros. Aussi des situations qui peuvent être un petit peu anxiogènes, des situations de haute vitesse. Par 24 heures, ça sera 4 heures par nuit, peut-être, quelque chose comme ça. Voilà, ça dépend vraiment des zones qu'on traverse, quoi.
Et il reste une question. Pourquoi diable Charlie, Dalin et les autres vont-ils se fourrer dans cette galère? Qu'est-ce qui fait courir Jérôme Val, les marins du Vendée Globe?
Parce que si on nous écoute jusqu'à présent, on se dit c'est un petit endroit perdu au milieu de nulle part.
C'est l'enfer.
C'est humide, c'est bruyant, etc. Mais ils y vont quand même pour le plaisir, pour la compétition, pour cet esprit-là, effectivement, de l'aventure, qui reste encore, malgré tout, dans cette compétition. Il faut savoir qu'après ce départ de Vendée Globe, il y aura 115 marins qui auront pris part à cette course depuis 1989, depuis la première édition. C'est moins que d'hommes et de femmes qui sont allés dans l'espace, c'est moins que d'hommes et de femmes qui ont gravi l'Everest. Ça reste quand même une aventure hors du commun et c'est aussi ça que viennent chercher tous ces marins.
Et particularité pour Charlie Dalin, c'est sa première, mais le défi ne l'effraie pas.
J'aime ça, quoi. J'aime vraiment être seul sur un bateau pendant les longues périodes. Pour l'instant, je n'ai pas dépassé les 3 semaines seul sur un bateau, donc j'en serais plus en rentrant du Vendée Globe, mais en tout cas aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir toujours été attiré par les longues périodes en solitaire sur un bateau. Voilà, je suis pas quelqu'un qui craint la solitude, au contraire, c'est quelque chose qui m'attire. Voilà, je me sens bien sur mon bateau à travailler sur ma trajectoire, régler mes voiles, bricoler ce qu'il y a à bricoler, réparer ce qu'il y a à réparer, vivre à bord tout simplement.
Et ce sont des moments aussi où vous vous questionnez, c'est aussi quelque chose que vous recherchez sur vous-même.
Moi, ce que je viens chercher, c'est beaucoup la compétition, quoi. Je suis un compétiteur de nature, me mesurer aux autres, mais il y a aussi quelque part se mesurer aux éléments, quoi. C'est un environnement qu'on ne contrôle pas. Jouer avec les fronts, jouer avec les dépressions, les anticyclones, les nuages, c'est génial, c'est incroyable, quoi. Et cela étant dit, il y a toujours des moments où je vais contempler ce qui se passe, quoi. Des couchers de soleil, des levées de soleil, des nuits de pleine lune. C'est aussi de temps en temps quand on passe dans des zones riches en plancton, de nuit, en fait, le sillage est fluorescent. Quand les dauphins aussi nagent dans ce plancton, ça ressemble à des torpilles qui se déplacent dans l'eau. Là, c'est y a des moments magiques, quoi, que j'adore vivre aussi.
Salut, c'est Charlie sur Apivia. Bon, ce soir, c'est ma dernière nuit sur le bateau. Dernier coucher de soleil avant d'arriver aux Açores.
Est-ce qu'en course, en bateau, vous avez déjà eu peur? Est-ce que c'est un sentiment que vous avez déjà éprouvé ou pas?
Quand je me suis retrouvé dans des conditions compliquées, j'étais plus dans la gestion de ce qui se passait, de justement de garder le dessus. Et j'ai l'impression que j'ai pas forcément eu le temps d'avoir peur. Après, la peur, c'est pas quelque chose qu'il faut rejeter, quoi. Je pense que pour moi, la peur, c'est un signal qu'il faut accueillir, quoi. Je pense que ça fait partie de l'instinct de survie et je pense que c'est important de au moins comprendre pourquoi et où de quoi on a peur.
Quand on parle des 40e rugissants, les 50e hurlants que vous allez affronter pour la première fois vous concernant, ça vous fascine? Vous vous dites « Ouais, j'ai vraiment envie d'y aller là ?»
Ouais, ça m'attire forcément. Personne m'a forcé à y aller. Hein. Moi, j'ai hâte d'y être, au contraire. Il y aura forcément des moments difficiles, mais voilà, c'est pas moi qui vais me plaindre. Moi, j'ai vraiment hâte de vivre ce tour du monde.
Bon, on aperçoit Fernando de Noronha, juste ici. Cette île perdue au milieu de l'Atlantique. Ça avance bien. Ça mouille. Dans moins de 24 heures, on sera le long de la côte du Brésil.
C'est sûr que je me prépare pour quelque chose que je connais pas, quelque part, quoi.
Du coup, je me suis préparé en discutant avec beaucoup de Vendée Globistes pour voir voilà, comment est-ce qu'ils vivaient cette course, quels étaient leurs problèmes, quels ressentis ils avaient à tel moment du période, voilà, pour réussir à me projeter un maximum pour arriver le plus près possible, quoi.
Voilà pour ces confidences de Charlie Dalin à votre micro. Jérôme Val, c'est l'un des favoris hein, de ce Vendée Globe, même si c'est son premier.
Clairement, candidat à la victoire, Charlie Dalin. C'est très difficile sur un Vendée Globe de faire des pronostics. Il y a une statistique qui est immuable depuis la création de cette épreuve en 1989. Environ un bateau sur deux n'arrivera pas à bon port au Sable d'Olonne. Des casses, des abandons, qui fait qu'il y a une hécatombe assez récurrente sur les éditions du Vendée Globe. Donc c'est un paramètre à prendre en compte. Mais oui, Charlie Dalin, il a le bateau taillé pour la victoire. Il a la détermination et le caractère pour aller chercher cette victoire. Et vous le disiez, c'est un bisu. Mais on se souvient qu'en 2012, François Gabart était également un bisu. Et ça ne l'a pas empêché de triompher quelques semaines plus tard au Sable d'Olonne.
Merci Jérôme Val.
Merci Bruno.
Une semaine dans leur vie est un podcast de la rédaction de France Inter.